Radio Django, 18-19h.
Noël approche, tout le monde le sait, les idées de cadeaux germent gentiment dans les esprits, mais il reste certainement encore un papa ou une sœur ou un beau-frère qui, pour qui on n'a pas encore d'idée de cadeau, en tout cas pas la bonne idée. Alors ce soir, Jean-Luc va jouer au Père Noël, il s'est rendu à la librairie Basta et nous rapporte une suggestion de livre à placer peut-être sous le sapin.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la librairie Basta, située au Petit Rocher 4 à Lausanne, en compagnie de Laurent, libraire. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Quelle lecture nous suggérez-vous pour cette fin d'année ?
Aujourd'hui, je vous présente un livre assez particulier. Moi, j'ai jamais lu quelque chose de semblable. C'est l'avantage, c'est que c'est un livre assez léger, mais vraiment très chouette. En fait, je vous présente un titre d'un auteur qui s'appelle Timothée Ray, qui s'appelle « La mer des ondes et des crues ». Et c'est paru chez les éditions Les Moutons électriques. Les Moutons électriques, c'est une maison d'édition qui, en général, fait paraître des textes assez particuliers, voilà, qui sortent de l'ordinaire. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. La mer des ondes et des crues, c'est sous-titré Une enquête de Nakin Oeil, chaman détective.
Quel beau titre!
C'est un très beau titre. C'est le deuxième volume d'une série. En fait, c'est un policier qui a pour particularité de se passer pendant l'Aurignacien, qui est une période de l'histoire humaine, il y a 35 000 ans. C'est donc un détective préhistorique.
Peu de livres parlent de... Enfin, peu de policiers parlent de cette époque. Hein.
Ouais, alors, les histoires préhistoriques, il y en a quelques-unes. On peut se souvenir, par exemple, de « Pourquoi j'ai mangé mon père » de Roy Lewis, qui est très très bien, qui a rien de policier, mais qui est très drôle. Un petit livre drôle, si vous voulez lire. Il y avait aussi une série d'une auteure qui s'appelle Howell, qui était là, une grande saga entre une Homo sapiens et des néandertaliens. Mais celui-là, moi, un policier préhistorique, j'avais jamais vu, et c'est non seulement très bien foutu, mais en plus franchement drôle.
Et l'intrigue,
on suit donc Nakin Oeil, Colombol Nakin Oeil. Donc tous les personnages ont des noms et un surnom comme Nakin Oeil, parce qu'il est borgne, un nom de plante en général, un nom de plante ou d'animal. Et donc, on suit Nakin Oeil qui revient d'une grande réunion des tribus avec son disciple qui s'appelle Queue de Rox. Lors d'une soirée avec les membres d'une autre tribu, il y a une soirée de conte où quelqu'un raconte une histoire. Et au milieu de cette soirée de conte, débarque un homme ensangloté qui titube devant la foule réunie dans une caverne pour écouter l'histoire, qui ressort précipitamment. Et les gens le suivent, il pleut, il fait noir, les gens voient pas bien, et il retrouve l'homme par terre, poignardé d'une lame de silex, et à côté du corps, il y a l'apprenti de Nakin Oeil, l'apprenti du chaman, couvert de sang. A priori, tout le désigne comme coupable, tout le monde a vu la victime poignardée, tout le monde voit que c'est l'apprenti qui est juste à côté et qui a apparemment la tuée, tout le désigne, et pourtant tout n'est pas si simple. Voilà, après on va suivre en fait l'enquête de Nakin Oeil. C'est sa deuxième enquête, j'ai pas encore lu le premier parce que je suis tombé sur celui-là. C'est très drôle, d'abord parce que on est souvent dans la tête de Nakin Oeil, donc on suit vraiment tout son raisonnement pour trouver le coupable, comment il démonte les arguments des gens qui accusent son disciple. Parce que lui, il est convaincu de son innocence. Puis il le connaît bien, son apprenti. Il sait que c'est pas un meurtrier.
Alors dans cette société, qui le mandate pour faire ce travail ?
Comme il est chaman, c'est un personnage assez important. Comme c'est une réunion de deux tribus, ils reviennent d'un grand rassemblement. Il y a une espèce d'équipe des deux tribus qui se mettent ensemble pour pouvoir faire une enquête qui soit juste. Parce que l'accusé est d'une tribu et la victime est de l'autre tribu. Pour pas qu'il y ait trop de tension, voilà, il y a des représentants des deux tribus qui forment une espèce d'équipe d'enquêteurs. Avec la chamane de l'autre tribu, avec la chef, avec deux, trois autres personnages. Dans la narration, il y a quelque chose qui est très très drôle, c'est que tout le monde parle, un peu comme dans un vieux film français, un peu avec cette gouaille de Jean Gabin, avec des grosses blagues, avec des... un peu comme si on était dans un vieux bistrot. Et ça, c'est très drôle parce que ça détend beaucoup l'atmosphère et ça les rend très vivants. On se dit, ah, pourquoi pas, peut-être qu'il parlait un peu comme ça.
Quel est l'avantage, en fait, de situer en bouquin dans ces temps-là ? J'imagine que ça permet de parler beaucoup d'autres choses et des choses qui existent actuellement, j'imagine, qu'il y a une espèce de parallèle.
Alors, je ne sais pas tellement s'il y a une question parallèle. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un livre qui est franchement très bien documenté. En plus du dépaysement, parce que c'est un vrai dépaysement de se retrouver à cette époque-là, il y a tout un aspect informatif, parce qu'on se rend compte des technologies à disposition à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose. La manière de vivre des gens, d'avoir de la nourriture, de s'organiser, d'avoir les rites qui pouvaient exister. Je pense que là, il y a quand même une grande part d'invention, parce qu'on ne doit pas avoir beaucoup de certitudes sur une période aussi lointaine. C'est crédible, c'est vraiment crédible.
Est-ce que l'auteur doit connaître, vous pensez, qu'il a des connaissances particulières en tant qu'anthropologue, enfin, en tant que paléontologue ou...
Je pense qu'il s'est renseigné. C'est pas un travail d'historien non plus. Il s'est mis à cette époque-là parce qu'à mon avis, ça le fait bien marrer. Ça lui permet de rajouter de l'irrationnel dans l'histoire. Parce que, à l'époque, voilà, pour expliquer un meurtre ou pour expliquer certains signes naturels, au moment où le meurtre se passe et sur les quelques jours que dure l'enquête, ils sont dans des cavernes au bord d'une rivière. On sait qu'il y a une crue qui va arriver, ou des gens, certaines personnes savent qu'il y a une crue qui va arriver, la pluie tombe. Tous ces effets naturels permettent à certaines personnes d'appuyer l'accusation avec des explications irrationnelles, des explications de déités locales qui désigneraient telle ou telle personne, voilà, qui accuserait des gens. C'est ça qui est marrant, c'est que tout le travail de l'enquêteur, de Nakanoï, c'est que quand bien même il est chaman et donc gardien de la spiritualité du clan, il est aussi, en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement rationnel, vraiment très rationnel. Les histoires de dieu ours et de dieu truite de la rivière, il veut bien, il aime bien ça raconter ça à ses condisciples, mais lui-même, il y croit assez moyennement. Disons que pour lui, ça, c'est plus une histoire de ciment social, ça, c'est assez intéressant. Mais lui-même, c'est un rationnel, lui, il croit aux faits. Et c'est un peu comme regarder les experts il y a 35 000 ans, parce que pour démonter l'accusation, il va aller dans les cavernes visiter, faire des interrogatoires, exactement comme on le verrait dans une série policière actuelle, confronter les preuves, récolter des bouts de tissu, regarder les éclaboussures de sang, comment est-ce qu'elles sont tombées, comment est la plaie, est-ce que c'est un gaucher, est-ce que c'est un droitier. Et tout ça, on se dit... Nous, on l'a déjà vu dans les experts, et puis on se dit « Ah non, mais en fait, c'est possible qu'ils le sachent. C'est possible, c'est pas complètement tiré par les cheveux. » Alors ça fait beaucoup de connaissances pour un seul homme, à la fin du livre, mais c'est pas impossible.
En tout cas, ça donne envie de le lire.
Je vous le recommande.
Et vous pouvez nous répéter le titre de cet ouvrage ?
C'est « La mer des ondes et des crues, une enquête de Nakanoï, chaman détective ». C'est écrit par Timothée Ray, les éditions c'est « Les moutons électriques ».
Et nous vous rappelons que vous pouvez vous procurer ce livre à Basta, situé au Petit Rocher 4 à Lausanne. Merci Laurent pour cette proposition.
Merci à vous.
Un sujet à retrouver en podcast, bien sûr sur notre site django.fm.